Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous espérons que ce message transformera votre vie pour faire la différence dans un monde sans espérance. Que le Seigneur vous bénisse.
Tirez une bonne conclusion. Que le Seigneur soit béni. Nous avons eu un verset que nous avons confessé la fois passée dans Romains chapitre 8. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut le projeter, Romains chapitre ? Merci. Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Ok, nous allons confesser. On commence le verset premier. Allez-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi. Dites avec moi, je suis affranchi. Ça veut dire je suis libre. Je suis libéré de la malédiction de la loi. Et je le déclare que je ne suis plus sous la malédiction, sous la condamnation, mais je suis dans la bénédiction. Car il est écrit que je suis béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Je confesse que la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, et je suis en Jésus, je suis en Christ, et la loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché, ce qui veut dire de la malédiction, de la pauvreté, de la misère, de la maladie. Je le refuse au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Pourquoi nous déclarons la confession de la parole de Dieu? Suivez très bien. Maintenant, dites à la personne à côté de toi, ne me parle plus parce qu'on va suivre la parole. Merci. Alors, je vais aller vite. Pourquoi la confession avant le culte est très importante? C'est très important de s'aligner. Dites s'aligner. Parce que quand nous déclarons, quand nous confessons, au fait, confesser, ça veut dire dire comme. Et quand nous confessons la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Nous nous alignons au langage de Dieu. Ça veut dire Dieu veut que chacun de ses enfants s'aligne à son langage. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu est la parole créatrice, est la parole qui a créé le ciel et la terre. Alors, quand tu confesses la parole de Dieu, ça veut dire que tu t'alignes à ce que Dieu a dit. Maintenant, en s'alignant à ce que Dieu a dit, comme cette parole-là que tu confesses de ta bouche, elle est une puissance qui crée. Le miracle de la création va démarrer dans ta vie, dans chaque domaine. Dites dans chaque domaine. Dis encore dans chaque domaine. Voici l'importance, voici le pourquoi chaque enfant de Dieu doit chercher des promesses de Dieu auxquelles il doit confesser. Exemple, pour quelqu'un qui a toujours peur, trouve dans la Bible un verset qui parle de l'anéantissement de la peur. Et non? Alors, quand tu te lèves, si toi, de nature, tu as toujours peur, tu es un peureux, prends un verset qui dit, déclare cela, je n'ai plus peur, parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur ou de crainte. J'ai la force de Dieu, j'ai l'intelligence divine, et je peux faire face à la vie. Quand tu déclares cela, ça te donne une foi. Pour les gens qui, le diable, leur dit toujours que non, tu manqueras de quoi que ce soit, tu dois prendre le verset de Psaume, je crois, 25, qui dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et maintenant, quand tu le déclares, premièrement, tu t'entends toi-même. Et la Bible dit dans ce verset qu'il y a une loi. Dites une loi. Une loi reste une loi. Une loi reste une loi. J'avais donné la fois passée l'exemple que quand tu brûles un feu rouge, tu sais ce qui va t'arriver. C'est 153$ qui part et puis le nombre de litres de lait qui s'envole devant toi. Et non seulement ça, tu perds 3 points. Ça, c'est un exemple de la force de la loi. Alors, la Bible dit qu'il y a une loi, il y a deux lois. La loi de l'esprit de vie. Mais cette loi-là est seulement en Christ. Ça veut dire que pour que la loi de l'esprit de vie fonctionne dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, quand la loi de l'esprit de vie commence à agir dans ta vie, ça n'ayant une autre loi, c'est la loi du péché et de la mort. Parce que le péché a ses conséquences. C'est par le péché que la malédiction est tombée sur l'homme. J'ai toujours expliqué que dans l'Ancien Testament, quand on parle de la malédiction de la loi était composée de trois choses. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Je n'entends pas. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Ces trois choses-là, c'est ça qui compose la malédiction de la loi. Mais Galates chapitre 3, verset 13 jusqu'à 14, la Bible dit, Christ s'est fait malédiction à ta place. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire ces trois choses. Quand Christ mourait à la croix, il les a pris dans son corps pour toi. Ça veut dire qu'il a réglé une fois l'histoire de la malédiction. Quand il accepte la malédiction, la mort spirituelle, la pauvreté, la maladie n'a plus de pouvoir. C'est ça l'évangile. Maintenant, quitte à toi. Mais comme la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Maintenant, ça dépend de ta foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ a tout fait. Mais maintenant, ça va dépendre de comment toi tu le reçois. Comment tu crois? C'est pourquoi un jour, Jésus-Christ, une femme est venue, elle a touché son habit. Parce qu'elle se disait dans son cœur, si seulement je peux toucher son habit, je serai guérie. Après 12 ans d'une perte de maladie, elle a perdu tout son argent. Mais la Bible dit qu'elle s'est faufilée, elle a touché l'habit de Jésus. La Bible dit qu'il y avait une puissance qui est sortie de son habit, de l'habit de Jésus. Et la dame était guérie. Jésus-Christ regarde de gauche à droite, il a dit, qui m'a touché? Le disciple dit, mais il y a plein de monde, comment tu peux dire qu'il a touché? Et puis la femme tremblante dit, maître, c'est moi. Jésus le regarde, il ne lui a pas dit, ma foi t'a guéri. Non, Jésus a dit, ta foi, madame, t'a guéri. Dire la foi qu'elle avait dans ce qu'elle croyait. Oh, béni soit le nom. C'est parce que dès la maison, elle se disait, si seulement je peux toucher. Elle ne disait pas si je touche Jésus. Mais elle disait, si seulement je peux toucher son habit, je serai guéri. Ça, c'était sa foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons tout faire de développer notre confiance. Frères et sœurs, on peut venir à l'église, mais ne pas développer la confiance dans la parole. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que chaque personne a confiance dans la parole. Il y a d'autres personnes, il peut être à l'église, il peut écouter ici. Ça sort de l'autre côté. Même quand tu parles avec lui, tu vois que lui, il comprend à travers la parole. Même quand tu es avec lui, tu vois qu'il n'y a pas une base. Et il peut se retrouver devant quelqu'un. Cette personne, ça fait parfois 8 ans qu'il est à l'église. Mais cette personne n'est pas à mesure d'aider une nouvelle personne. Pourquoi? C'est parce que la personne ne prend pas au sérieux ce qu'il reçoit. Frère, vous savez qu'être à l'église ici, c'est autre chose. Mais prendre au sérieux la parole qui est enseignée, c'est tout autre chose. C'est un choix personnel. Et il y a d'autres personnes, c'est pourquoi les gens crient dans les églises. Oh, mais comment se fait-il que, il fréquente tout le temps les églises. Mais regarde un peu comment il vit, ainsi de suite. Mais est-ce que la personne prend au sérieux ce qu'il écoute? Parce que même Dieu n'est pas un dictateur. Allô? Dieu est partout, mais il n'est pas un dictateur. C'est pourquoi la place que tu donnes à la parole de Dieu va déterminer ce que Dieu fera dans ta vie. La place que tu donnes. Il y a un verset qui dit, on vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré. Souvent, on explique cela toujours à propos des finances. C'est bien, mais autrement, il y a une autre explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu recevras de Dieu selon la compréhension de la parole que tu as compris. Ah Seigneur, et dit, nous recevons de la part de Dieu selon la compréhension que tu as eue dans la parole. Si tu n'as pas compris la parole, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu dit. Ta façon de recevoir va dépendre de comment tu as compris quoi? La parole. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et c'est pourquoi la confession de la parole de Dieu, je vous conseille, je vous encourage, très tôt le matin, avant de sortir, déclare même 2 versets de la parole de Dieu. Pas d'une manière intellecte, mais crois, confesse cela. Aligne-toi. Vous savez, de toute façon, quand tu t'alignes et tu le déclares, c'est ça qui finira par se réaliser. Que son nom soit béni. Quand tu continues à dire que non, moi je suis un vaurien, je ne vaux pas la peine, je ne réussirai jamais, ma famille c'est ci. Oh Lord, ne vous en faites pas, on peut t'imposer les mains, il n'y a rien qui changera. Parce que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. La malédiction et la bénédiction est au pouvoir de ta langue. Frères et sœurs, ce que vous déclarez a de l'impact. Ne voyez jamais des sorciers partout. Ne voyez jamais le diable partout. Mais la Bible ne dit même pas que la vie et la mort est au pouvoir de Satan. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Frères et sœurs, il y a un facteur dans notre langue qui peut libérer la vie, qui peut libérer l'espoir, qui peut libérer la réussite dans chaque domaine de ta vie. Mais ça demande une discipline parce que souvent, depuis qu'on est né, on a grandi dans un environnement où les gens parlaient négatif, où les gens ne voyaient que négatif. Tout ce que l'homme voyait, c'est négatif. Maintenant, quand on accepte Jésus, il n'est pas toujours facile de changer directement notre façon de parler. Ça va demander une discipline. Dites discipline. Ça va demander une discipline pour changer une autre façon de parler. Et Dieu veut que tu parles comme Dieu parle. Loué soit le nom du Seigneur. Et en parlant comme Dieu parle, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie que tout le monde va s'étonner. Dieu a un plan pour nous de réussite et non pas de malheur. Maintenant, continuons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans l'évangile, maintenant, faisons la suite de la restitution. Suite de la restitution. Nous avons dit la fois passée que nous avons lu beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui parlaient de la restitution. En fait, notre verset clair, c'était Jean chapitre 10, verset 10, qui a dit quoi? Le diable ne vient que pour voler. Ça veut dire que Satan, on l'appelle qui? Un voleur. Dites, c'est un voleur. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, Satan ne vient que pour dévorer, égorger, tuer. Dieu, nous avons vu depuis toute la semaine que Satan, son travail, c'est de détruire. Il veut détruire tes finances, il veut détruire ta santé, il veut détruire votre mariage, il veut détruire ton futur, il veut détruire tes relations. Il veut détruire tout ce que Satan sait, c'est de détruire. Mais le dernier verset, la Bible dit que mais Jésus-Christ, le bon berger, lui, il vient pour nous donner quoi? La vie. Et nous avons bien dit que la gravité, la puissance de cette vie-là, Jésus-Christ n'a pas dit seulement « Je suis venu pour vous donner la vie », mais il a ajouté plus loin « La vie en abondance ». C'est pour montrer la qualité de cette vie-là que le Seigneur veut te donner. Quitte à toi de le recevoir. Béni soit le nom du Seigneur. Mais nous avons vu dans l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, nous avons vu dans Deutéronome, nous avons vu beaucoup de versets, que dans l'Ancien Testament, il y avait une loi que Dieu avait établie. Dites une loi. Et cette loi disait ceci. Quand un voleur venait chez toi, il volait un bœuf. Il s'en va chez lui, à la maison. Et vous faites des recherches, vous trouvez que c'est lui qui a volé. Vous arrivez chez lui dans son jardin, vous trouvez le bœuf qu'il a volé. La loi disait ceci, selon ce que Dieu a dit. Si vous voyez le bœuf et vous trouvez encore deux autres bœufs dans l'enclos, vous prenez et le bœuf qu'il a volé et les deux autres bœufs. Et la loi disait qu'il doit payer cinq bœufs. Vous prenez d'abord tous les trois bœufs et vous lui dites, débrouille-toi de trouver les deux autres bœufs parce que la loi de Dieu dit que tu dois donner quoi? Cinq. Un voleur devrait restituer. Je n'ai pas entendu. Et Jésus-Christ nous dit dans l'évangile que le diable, le voleur, ne vient que pour voler. Ça veut dire que nous avons dit que chacun de nous est appelé à intenter un procès à qui? À Satan. Et puis le déclarer d'avance condamné, coupable. Ça veut dire que comme il est coupable, c'est un voleur, il doit te restituer. Nous avons dit que la restitution... Ah Seigneur, le temps parfois nous manque. Mais ça vaut la peine de voir la parole de Dieu. La restitution, j'étais en train de dire que la restitution, il y a beaucoup de personnes, vous pouvez écouter cette parole, vous dire, ah bon, on n'a jamais entendu ça, mais je n'ai jamais vu ça, mais ça peut rester beau pour que ça soit vrai, mais tu ne vivras pas ça. Parce que ce qui compte, c'est des hommes et des femmes qui sont là, des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont là, qui croient, qui vont dire, oh, ça c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que le diable m'a volé beaucoup. Il a volé ma santé, il a volé parfois mes relations, il a volé parfois mon élévation, il a volé tout. Maintenant là, j'ai compris. L'affaire, que tout ce qu'il m'a volé, il doit me le restituer au double. Ou bien cinq fois, ou sept fois, septuple. Maintenant ça demande la foi dans ce que Dieu dit, pour que quand tu te lèves le matin, tu dis, Satan, écoute-moi bien. Tu m'as volé des relations, tu m'as volé l'élévation, tu m'as volé la santé, tu m'as volé parfois des... Vous savez, la liste est longue, on n'a pas le temps. Mais tout ce que tu sais que le diable te l'a volé, dis-lui que tu dois me restituer. Mais j'avais dit, entre parenthèses, j'avais dit quelque chose. On peut demander la restitution de tout, mais quand vous arrivez dans le domaine de l'argent, il faut toujours réfléchir deux fois avant de dire à Satan, restitue-moi ce que tu m'as volé. Pourquoi? J'avais expliqué une petite clause que si tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, tu es membre dans une église, tu vas écouter la parole, mais toi tu ne payes jamais ta dîme, tu ne donnes jamais ton offrande, ça veut dire que quoi? Tu as volé ce qui appartenait à Dieu. Parce que comme tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. Et même quand tu dis à Satan, restitue-moi l'argent que tu m'as volé, le Satan te dira, mais moi, tu as volé toi ce qui appartient à Dieu, moi je pouvais te voler aussi légalement. C'est-à-dire, vous êtes des voleurs volés. Alors, quand tu demandes la restitution dans le domaine financier, il faut vraiment bien réfléchir. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que je paye ma dîme? Est-ce que je donne mon offrande? Amen. Maintenant, écoutez, tu peux ne pas croire à ça, parfois ce n'est pas pour toi, oublie ça. Mais c'est ça. Parce que beaucoup de personnes, après avoir entendu un bon message comme ça, ils commencent à crier « Restitution, Satan, retourne-moi, redonne !» Mais non, si tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu ne payes jamais ta dîme, arrêtez, demande d'abord pardon et donne ce qui appartient à Dieu. Et quand tu diras à Satan « Restitution », il comprendra et te dira « Tu as raison, tu es toujours en règle avec Dieu, mais moi je volais. » Alors là, on doit te le restituer. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons expliqué cela en long et en large. Sur la restitution. Frères et sœurs, que la parole de Dieu soit vraie dans notre cœur. Et j'ai continué à expliquer pendant toute la semaine que la restitution doit se faire parfois dans la prière, dans la louange, ainsi de suite. Maintenant, on est arrivé à un autre niveau, la restitution dans la poursuite. On doit poursuivre l'ennemi. J'avais expliqué que quand David avait perdu tout ce qu'il y avait, avec toute son équipe, il était parti en guerre avec tous ses soldats, arrivé à la maison, il retrouve que la ville est complètement incendiée. Le feu. Ils ont regardé, ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants et tout. La première chose, David, la Bible dit que tout le groupe de David voulait les lapider, voulait les tuer. En disant, David, tu nous as embarqués dans la guerre, maintenant on revient à la maison, on a perdu nos femmes, on a perdu tout, la ville est en feu. David, on va te lapider. La Bible dit que David n'a pas eu peur. Il était dans l'angoisse, mais il a monté au-dessus de l'angoisse. Il a surpassé l'angoisse. Premièrement, il est parti consulter Dieu. Nous avons expliqué que la prière est très importante pour la restitution. David pouvait bien paniquer devant la pression des gens. Mais il n'a pas pris la décision de paniquer. Il est parti se mettre à genoux. Il a consulté Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Oh Seigneur, poursuivrai-je ces ennemis? Les atteindrai-je? Dieu lui a dit, va. Alléluia. Dieu lui a dit, va. Tu vas les poursuivre. Tu vas les atteindre. David, nous avons vu la fois passée que David était parti parce que Dieu lui a dit, va, je te livre l'ennemi. Et c'est ça, maintenant j'avais expliqué quelque chose. Non seulement David a reçu un feu vert, mais il s'est levé. Alors, parce que David pouvait bien rester dire, oh béni soit le nom du Seigneur, Dieu m'a dit qu'il m'a livré l'ennemi. Oh formidable, j'ai prié, Dieu a agi, formidable, Dieu m'a parlé. Il n'allait pas récupérer tout. S'il est resté là, en train de dire, béni soit le nom du Seigneur. J'ai jeûné, j'ai prié, Dieu m'a répondu. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, les amis, vous avez vu, j'ai consulté Dieu. Dieu m'a entendu, hein? Il m'a dit qu'il nous a livré l'ennemi. Ok, on peut rester parce que Dieu lui-même agira. Il n'allait pas voir la restitution. Mais David, après avoir consulté Dieu, la Bible dit qu'il s'est levé et il est fait quoi? Il est parti en guerre. Il est parti. Et ça, nous avons dit que la foi sans l'action ne marche pas. La foi doit être une foi active. La Bible dit que David est parti à la poursuite de ceux qui ont volé tout, tout, tout. Et arrivé quelque part, nous avons expliqué qu'il a trouvé un monsieur qu'on a abandonné par les Amalécites, qui était mourant. Il lui pose la question, tu étais avec qui? Il a expliqué, non, j'étais avec ceux qui ont brûlé Tiglath. Alors il a dit, mais écoutez, il dit à son équipe, donne-lui à manger. Quand le monsieur a pris la force, il les a dit, promettez-moi David que vous ne me tuerez pas et vous ne me livrerez pas par mon maître. Mais amenez-moi parce que je veux vous montrer où ils sont. Quelqu'un peut dire amen. J'ai expliqué la fois passée qu'il y a d'autres relations qu'il faut veiller. Il faut veiller sur des relations parce que cette relation-là, tu ne sais pas où ça peut t'amener. Il y a d'autres relations qu'il faut entretenir. J'avais bien expliqué que beaucoup de personnes, ils ont vécu parfois dans la négligence de d'où ils viennent, à tel point ils peuvent être devant des relations, ils prennent cela comme du n'importe quoi. Ils ne respectent pas leurs relations, ils ne renouvellent pas leurs relations, ils n'entretiennent pas leurs relations. Ils pensent que comme ça, il y a des personnes comme ça. Les relations, ils ne veillent pas sur leurs relations. Ils sabotent tout. Ils traitent cela n'importe comment. Mais David, après avoir pris ce monsieur-là, il lui a donné à manger. C'est grâce à lui qu'il a dit, maintenant accompagnez-moi. Suivez-moi, je vais vous montrer où ils sont. La Bible dit, quand ils sont arrivés devant les camps, ils ont trouvé tous les ennemis dansés à cause de butin. Ils ont pris l'or, ils ont pris les femmes, ils ont pris l'argent. Alors ils étaient en train de danser, ils buvaient, ils dansaient. Ils étaient en pleine danse quand David a fait un saut. Vous voyez un peu la foi, dites la foi. La foi agira dans ta vie le jour que tu diras ce que Dieu m'a promis est vrai. Je veux à l'accomplissement. Dieu n'accomplira pas tant que toi tu n'es pas en action. J'aimerais bien que vous me regardiez bien en face. Dites avec moi, Dieu n'agira pas dans ma vie tant que je ne passe pas à l'action. Répétez encore, Dieu n'agira pas dans ma vie tant que je ne passe pas en action. Ça veut dire l'action est très, très, très important. Frères et sœurs, l'action, tu peux dire que tu as la foi, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est compliqué. Et l'action dans tous les domaines est très important. La fois passée, j'avais expliqué comment Moïse, devant la mer rouge, les gens criaient, les gens pleuraient. Non, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Dieu lui a posé la question. Quand tu entres tes bras, il a dit, j'ai un morceau de bâton. Il a dit, frappe. Dès qu'il a frappé, la mer s'est ouverte. La femme a perte du sang. Dès qu'elle a touché l'habit, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Le sang a séché. Nous avons vu Bartimée. Bartimée, il criait. Les gens lui disaient, mais non, Bartimée, calme-toi, calme-toi. Tu nous déranges. Tu ne vois pas que tu nous fais mal. Et crier là, c'est la prière. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais finalement, cette église-là, Centre Christ en Action, semaine de prière, vous êtes toujours là. Et beaucoup de personnes, dans les semaines de prière, ils ne sont même pas là. Mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ce n'est pas normal. Ils attendent d'abord qu'un problème lui arrive pour commencer à chercher Dieu. Quand on dit il y a une convocation solennelle, il faut que, surtout ceux qui sont à la maison, faites tout d'aller prier pendant une semaine parce que vous ne savez pas qu'en priant, vous êtes en train de bâtir quelque chose avec Dieu. Quand vous priez, vous associez Dieu dans votre action. La prière fait, oh béni soit le nom du Seigneur, la prière fait que tu fais de Dieu ton partenaire. Tu montres à Dieu que tu dépends de lui, tu te confies en lui, tu t'appuies sur lui, ainsi de suite là. Et la Bible dit que la récupération des choses que Dieu nous a, et que Satan nous a volées, ne peuvent pas s'accomplir n'importe comment. C'est premièrement dans la prière, deuxièmement dans la louange, ainsi de suite là, en mettant notre foi en action. C'est pourquoi j'encourage tout le monde, s'il faut aller suivre une formation, va suivre une formation. Même si toutes les pensées te diront que non, à ton âge, la formation ne marchera pas, tu ne comprendras plus. Dites, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur va me donner de l'intelligence, je vais comprendre. Vous savez, j'avais dit qu'il y a d'autres choses que nous faisons dans la vie, c'est temporaire. Dieu ne te demande pas de rester là. Dieu ne te demande pas, vous savez frères et sœurs, il y a d'autres emplois parfois que nous faisons, c'est temporaire. Dieu avait déjà planifié quelque chose de grand. Mais tu dois commencer parce que la vie a un commencement. Les gens qui n'aiment pas commencer, ils pensent que directement doivent monter au septième étage. Pour arriver au septième étage, il faut commencer par le premier étage, deuxième étage. Alors, parce qu'à chaque étage, nous apprenons. À chaque niveau, vous savez comment Dieu travaille, frères et sœurs. Dieu travaille à chaque niveau. Et au fur et à mesure que tu montes, Dieu t'enseigne sur l'humilité, sur la confiance en Dieu. Dieu va te donner une école. Dieu va t'enseigner dans plusieurs domaines. Et frères et sœurs, n'oubliez jamais le petit commencement. Parfois, la place où tu apprends là, la place où tu es en train de travailler, ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Sois fidèle. Va à temps. Faites le travail comme il faut, proprement, correctement. Parce que Dieu, la Bible dit qu'en étant fidèle dans les petites choses, Dieu va voir comment tu le fais et Dieu va t'élever à un autre niveau. Moi, je connais des frères qui ont commencé de simples employés dans des sociétés. Ils sont venus me voir au bureau. Pasteur, tu vois, on m'a donné l'élévation. Maintenant, je suis venu le directeur de ceci. Mais vous voyez, parfois, il était là, il faisait les petites choses. Frère, tout commence par l'humilité. Dieu ne bénit jamais le manque d'humilité. Quand tu te crois suffisant, Dieu s'en fout de toi. David, Joseph devrait être qui? Premier ministre. Regardez d'où il est venu. Joseph qui devrait aller être premier ministre dans un pays qui n'était pas le sien. Mais regardez un peu, il est jeté d'abord par un trou. Il se retrouve dans un trou abandonné par ses frères. Tous les mouches, tous les cafards, tous les petits serpents, la boue. C'est le futur premier ministre en Égypte. On vient, on lui fait sortir de là, on lui vend. Abandonné par ses frères, délaissé. Il se retrouve là, lié par un esclave dans l'Ancien Testament. On les a portés comme ça. Liés des chaînes. Les Égyptiens l'ont pris. Ils arrivent en Égypte. Ils les vendent devant Potiphar. Dites Potiphar. Potiphar le prend. Elle dit, oh, c'est formidable, il est beau de visage. On le lave. Et Joseph regarde à la maison de Potiphar, tous les domestiques étaient propres. Et lui, il était sale. Finalement, quelques jours après, on lui donne tous les habits qu'il fallait. Mais la Bible dit que quelques temps après, Potiphar a constaté que Joseph avait un esprit différent. Parmi les esclaves, Dieu a élevé qui? Joseph. Attends, est-ce qu'il manquait des esclaves? Il y avait déjà beaucoup d'esclaves dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dit que Joseph avait un esprit différent. Potiphar a vu que non, ce garçon-là a quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Potiphar lui confie tout ce qui était à lui. Béni soit le notre Seigneur. Potiphar lui a confié tout. Je n'ai pas le temps de continuer, je vais vous dire quelque chose. Mais quelques jours après, sa femme voulait se coucher avec lui. Il pouvait dire, bien, en couchant avec sa femme, c'est l'opportunité de dominer sur la maison. Joseph a dit, non, non, comment commettrais-je un si mauvais péché devant Dieu et devant mon maître? Et ça lui a coûté la prison. Regarde-moi, ce n'est pas parce que tu fais le bien que ça ne peut pas t'écouter, ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter. Oh, pasteur, moi j'étais bien. Mais pasteur, moi je me comporte bien. Mais pourquoi ceci m'arrive? Ça peut t'écouter. Tu peux te retrouver parfois quelque part. Mais n'oubliez pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il se retrouve en prison. Joseph commence à travailler en prison. Quelques minutes après, on lui confie tous les prisonniers. Mon Dieu. C'est parce que Dieu devrait travailler le caractère de Joseph. Du parler qu'il était, il fallait commencer à modeler, qu'il apprenne à cacher les choses, qu'il apprenne parfois à être droit, d'attendre avant de dire quelque chose. Maintenant, Joseph était dans une école qu'on appelle l'école de Potiphar. Il devrait gérer son caractère. Il devrait gérer les ressources humaines par rapport à la promotion que Dieu préparait pour lui. Parce que être le premier ministre, c'est affaire à des humains. Maintenant, en prison, on commence à prendre soin des prisonniers. Ah là, son caractère commence à changer. Mais tout cela, les gens peuvent dire, mais Joseph avait la crainte de Dieu. Pourquoi celle qui lui est arrivée est arrivée? Pourquoi celui? Mais Dieu était le grand architecte qui coordonnait tout. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il faut louer le Seigneur en toutes choses. Tout ce qui peut arriver, parfois on ne le considère pas toujours d'une manière négative. Mais il faut tout dire, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Joseph, c'est là, c'est de la prison. En train de faire la gérance des hommes, qu'il se retrouve élevé. Vous connaissez l'histoire, comment il a été appelé pour aller interpréter le rêve du roi. Et à partir de là, vous voyez, il est passé étape par étape jusqu'à arriver à l'étape finale. Dites finale. Frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à s'humilier devant Dieu. Nous devons apprendre à faire même les petites choses que Dieu nous conseille. Nous devons apprendre à être fidèles. S'il faut arriver au travail avant, arriver avant. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de t'absenter comme Siri. Tu n'es pas obligé d'être macro-vie. Et c'est ça parfois. Il y a des personnes qui pensent qu'il peut jeûner, il peut prier, mais tout en restant n'importe comment. Tout en se comportant n'importe comment. Ça ne marche pas. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Frères et sœurs, nous devons apprendre à marcher sincèrement avec le Seigneur. Et surtout dans l'intégrité. À cause de ce que Dieu réserve pour nous. Quelqu'un peut dire, loué soit le notre Seigneur. Quelqu'un peut dire, Alléluia. Quelqu'un peut dire, continue. Alors, je vais prendre quelques minutes pour terminer. Mais j'ai tellement de choses à dire. Ah. Oh, béni soit le notre Seigneur. Nous avons vu que le diable vient pour voler. Mais tout ce que nous savons, c'est que la foi engendre la victoire. La poursuite, c'est mettre sa foi en action. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, c'est celui qui le cherche. Ça veut dire quoi? Dieu aime ceux qui agissent par la foi. Dites, Dieu aime ceux qui agissent par la foi. Il y a des applications que d'autres personnes doivent faire, peu importe, par rapport à ce que tu as étudié, par rapport à la formation. Parfois, il y a des applications que tu dois aller faire, parfois au gouvernement. J'ai prié pour beaucoup de personnes, je lui dis, toi, va faire l'application. Et ça marche. Il y a d'autres applications, n'attendez pas. Oh non, n'attendez pas. Ah, pasteur, j'en ai fait 17, maintenant j'abandonne. Ne abandonne pas. Un gagnant n'abandonne jamais. Continue d'appliquer. Il y a une porte qui sera ouverte pour toi. Et quand tu vois qu'on ne te prend pas, ne te mets pas en colère. Parce que le diable va dire, haïs-le. Il sait qu'en haïssant, ces choses-là n'existent pas dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, on va te montrer toutes les raisons. Oh, voyez-vous, on t'a humilié à cause de ta peau, on t'a humilié à cause de ta taille, on t'a humilié. Ah, dis-lui, peu importe ma taille, c'est Dieu qui m'a donné la taille. Peu importe ma couleur, c'est Dieu qui m'a donné la couleur. Peu importe d'où, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors ne recule pas parce qu'on t'a humilié. Frère, les gens qui résistent ne reculent jamais. Peu importe comment les gens les regardent. Les gens vous regardent toujours avec un air bizarre. Ils vont baisser parfois des lunettes pour bien vous regarder. Et il faut faire comme, tu passes d'abord et puis ils te regardent comme ça. Ah, mais dites, regardez-moi comme vous voulez, moi je continue. Parce que je suis appelé à faire quoi? À aller vers ma destinée. Regardez-moi, vous avez votre destinée. Il y a une destinée que tu ne peux pas hypothéquer. Tu as une destinée que tu ne peux pas léguer, que tu ne peux pas... Dites ma destinée. Bouche la main, dites ma destinée. Satan, tu as des ennuis. Béni soit le nom de Dieu. Ma destinée. Hallelujah. Deutéronome chapitre 2. Verset 31. Deutéronome chapitre 2, verset 31. Dites à la personne à côté de toi, est-ce que tu saisis quelque chose là? Comprends-tu quelque chose? Respire fort, dites on peut continuer. Alléluia. Ah, 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 ah. Pauvre diable. Deutéronome chapitre 2, verset 31. Il dit ceci. Oh, oh. Deutéronome chapitre 2, verset 31. Est-ce qu'on peut le faire rapidement s'il vous plaît? Ok, merci. L'Éternel me dit, vois, je te livre quoi? De maintenant Sion et son pays. Dieu dit, je te livre. Dites, je te livre. Quand Dieu dit, je te livre, ça veut dire, Dieu te livre. Je répète ce que je viens de dire. Notez bien que Dieu ne donne pas tout tant que son peuple ne commence pas à bouger et agir sur sa parole par la foi. Dieu s'occupera de l'ennemi qui se tient sur ton passage. Mais une fois qu'il vous donne le pays, c'est à vous d'aller la posséder. Il te laisse le soin de surmonter les obstacles. Regarde-moi. Dieu te dit bouge par la foi. Oh non, pasteur, tu sais, il y a beaucoup d'ennemis. Ah, il y a des sorciers. Il y a d'autres qui croient tellement sorciers. Ah, il y a des sorciers. Ah, il y a des sorciers. Dieu te dit, moi, je veux m'occuper de l'ennemi qui se mettra où? Sur ton chemin. Dites à Satan, mets-toi sur mon chemin. Dieu va s'occuper de toi. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments, parfois, l'ennemi doit se mettre sur le chemin pour tester notre foi. Parce qu'une foi qui n'est pas testée, ce n'est plus une foi. Les gens pensent que parce qu'ils marchent avec Dieu, que tout doit marcher comme ça. Brrr, brrr, il n'y a plus d'obstacles. Mais il y a d'autres obstacles parfois qui vont te pousser à prier. Il y a d'autres obstacles qui vont te pousser parfois de confesser la parole. Il y a d'autres obstacles qui vont te permettre de chercher plus la face de Dieu, de compter plus sur Dieu, d'enlever ton corps, d'arrêter de compter sur les humains, mais de commencer à compter qui? Sur Dieu. Il y a des moments où on s'accroche tellement sur les humains que Dieu est obligé parfois de briser toutes sortes des appuis humains pour que tu apprennes à s'appuyer sur lui. Alors, s'il vous plaît, dites aux obstacles, reste sur mon chemin, mais Dieu me garantit qu'il va s'occuper de toi. Amen. Qui a compris? Amen. Dites obstacle, prépare-toi, parce que celui qui est à moi est plus fort. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent se lever le matin en disant, je me lève, ma foi se lève. Maintenant, Satan, prépare tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais moi, je veux avancer. Et vous savez, quand il le déclare, ça va devenir vrai. Dites avec moi, on avance. Dieu s'occupera de l'ennemi qui se tient sur ton passage. Alléluia. Il te laisse les soins toi-même de surmonter les obstacles. Il n'y en manquera jamais des obstacles. Dans le psaume 108, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 108, verset 13. Allez-y. Psaume 108, verset 13. Béni soit le nom du Seigneur. Ok, quelqu'un peut nous le lire rapidement parce qu'il me semble que les gens n'ont pas maîtrisé. Il dit ceci, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits et il écraserait quoi? Nos ennemis. Dites-moi avec Dieu. Dites encore avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, toi qui crois en Jésus, toi qui as bâti une relation, je ne parle pas de fréquentaires des églises. Les gens peuvent fréquenter l'église, mais ne pas avoir une relation avec Dieu. On peut fréquenter l'église et puis dire les choses, mais tu n'as pas une relation, parce que c'est la relation que tu as avec Dieu qui va faire que quand tu es dehors, tu marches dans le respect de Dieu. Quand tu es dehors, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu respectes ce qui sort de ta bouche. Tu ne parles pas n'importe quoi. Tu ne parles pas de mal de ton église. Tu ne parles pas de mal des autres. Tu ne parles pas de mal de ton pasteur. C'est la relation que tu as avec Dieu qui te garde. Mais quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, il peut venir chauffer tous les dimanches le banc. Ça n'épate pas le diable. Parce qu'il sait qu'à chaque moment, il peut t'utiliser. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et ce même Dieu-là, il écrasera quoi? Nos ennemis. Regardez-moi, les obstacles que Dieu met sur ton chemin, Dieu te garantit qu'il va écraser ça. Mais il a besoin de quelqu'un qui s'élève. Non pas quelqu'un qui regarde, oh les obstacles, c'est trop fort. Je n'arriverai pas à faire ce travail. Non, moi, je n'arriverai pas à faire, suivre ces cours. Voyez, les perdants, tout ce qui sort de leur bouche, je n'arriverai pas, je n'arriverai pas, je n'arriverai pas, je n'arriverai pas. Quand est-ce que tu dirais, j'arriverai? Parce que Dieu va honorer ce que tu déclares. On continue? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu écrasera. Est-ce qu'on peut lire dans Daniel chapitre 11, verset 32? Hallelujah. Avant d'arriver, la Bible dit que les personnes qui placent leur confiance en Dieu et qui agissent par la foi peuvent accomplir des grands exploits pour les royaumes de Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32, il dit ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dites-moi, je connais Dieu. Et je vais agir. Je ne me laisserai pas séduire. Est-ce que peux-tu répéter avec moi? Je ne me laisserai pas séduire par les mauvais enseignements de Satan. Je marcherai de fermeté en fermeté. La Bible dit que le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, avec humilité, mais fermeté. Frère, soyons des gens qui avancent. Il y a tout un destiné. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour passer seulement, mais Dieu t'a mis sur la terre pour marquer ton temps. Attends, il y a des choses que Dieu a planifiées que tu dois agir, que tu dois réaliser avant que tu repartes au ciel. Il y a des choses, frère, il y a des postes qui vous attendent. Il y a des postes que Dieu a réservés pour vous. Il y a des postes, pour le moment tu te vois que non, tu es au chômage, mais Dieu dit, il y a un poste que j'ai réservé pour toi. Il y a un travail que j'ai réservé pour toi. Bientôt la personne qui a... Ah non, pasteur, mon dossier est bloqué. Qui peut bloquer le dossier d'un enfant de Dieu? Parce que tu ne sais pas comment un ange peut aller le soulever là sur le dossier. Et lui donner un bon coup de pied pour lui dire, elle, dites avec moi, mon dossier ne sera pas bloqué. Ni enterré. Ah non, pasteur, on a bloqué mon dossier. Et mon dossier est enterré. Qui peut enterrer ton dossier? Frères et sœurs, c'est tout ce qu'il te faut. Deviens un homme, une femme de prière. Prie parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent soin de vos dossiers, parfois des occultistes. Il est un serviteur de Satan. Il est dans la foi Bahaï, l'Incancar, Rose-Croix, Malkari, franc-maçon. Et il reçoit les dossiers, il voit que ce dossier-ci, ça vient de quelque part. Ce gars, il est bizarre. Je vais enterrer le dossier. Mais quand tu es quelqu'un qui s'est entré dans le monde spirituel, dites monde spirituel. Ah! Frères et sœurs, notre monde est gouverné par le monde spirituel. Il faut être fort dans le monde spirituel. Et l'unique façon d'être fort dans le monde spirituel, c'est d'apprendre à plier tes genoux et de dire à Satan, je t'ordonne que tu n'as ni part ni héritage jusqu'à quand tu bloqueras ce qui est à moi. Parce que le Canada doit donner tout ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus, Canada, écoute-moi. Québec, écoute-moi. Montréal, écoute-moi. Et quand tu le dis par la foi, il y avait une fille qui est venue me voir. Elle vient d'entrer dans la politique. Ah, elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, j'aime la politique. J'ai dit, oh, j'aime voir des filles comme ça en plein enthousiasme. Politique et comment? Et on vient de l'élever. Élever déjà, Seigneur. Ici, dans cette ville. Mais vous savez, on a besoin de personnes, non pas qui passent leur temps à bouder. Ils sont contre moi. Ils sont contre. Dieu n'a pas besoin de. Vous savez, tous les gens là qui murmuraient dans le désert, vous savez, leur cimetière était dans les déserts. Ils n'ont pas vu la terre promise qui coulait le lait et le miel. Alors qu'en sortant de l'Égypte, Dieu avait promis de leur donner quoi? La terre promise qui coule quoi? Le lait et le miel. Mais tous ceux qui ont reçu la promesse ne sont pas arrivés. Parce qu'arrivés dans le désert, ils ont dit, Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Moïse, en Égypte, on mangeait bien, on mangeait le lait et le miel. Frère, l'attitude de murmure n'est pas dans l'identité des vrais enfants de Dieu. L'attitude de calomnie inutile. Critiquer, vous vous rencontrez et vous commencez, mais tu t'enterres toi-même. Tu t'enterres parce que tu ne progresseras jamais. Dites, ma bouche est pour confesser les promesses de Dieu. Et non pas pour placoter n'importe quoi. Je veux être en règle avec Dieu. Et quand je me lève, je dirai à Satan, lâche prise. Il murmurait. Et la terre promise les a échappés. Seulement deux messieurs, Josué et Caleb, ils sont arrivés là, ils ont vu du lait et du miel. Formidable. Frères et sœurs, La bénédiction appartient à ceux qui s'élèvent par la foi. Dites à la personne à côté de toi, la bénédiction appartient à ceux qui s'élèvent par la foi. Allez-y. Est-ce qu'on peut lire un peu dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Alléluia. On arrive bientôt à la fin. Alléluia. Nous voulons apprendre comment récupérer ce qui nous appartient. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Béni soit le nom du Seigneur. 4 à 5. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on a dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est le murmure? Les critiques? La Bible dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que tu dois développer en toi, c'est la foi. Développe la foi, ne blague pas. Parce que c'est cette foi-là qui va amener la bénédiction dans toute ta famille. Les inquiétudes, les frustrations inutiles n'amèneront nulle part. La Bible dit que vous êtes appelés, nous sommes appelés à triompher. Parce que ceux qui sont nés de Dieu, premièrement on dit ceux qui sont nés de Dieu. Qui est né de Dieu? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu es né dans la famille de Dieu. Et quand on est né, frères et sœurs, vous pensez que le roi, le prince Charles a besoin de se poser des questions s'il est né dans la famille royale? Mais il est né là-dedans. Et tous les droits lui appartiennent. Frère, la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu. Naître de Dieu, ça veut dire quoi? Reconnaître qu'on est un pécheur, dire à Jésus de venir dans notre cœur. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. À partir de là, on te fait l'attestation de naissance dans le royaume céleste. Une attestation de naissance dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que parce que tu es né dans le royaume de Dieu, la Bible dit que tu es appelé à faire quoi? À triompher. Dites triompher. Triompher, ça veut dire gagner. Triompher, ça veut dire marcher sur ton ennemi dans toutes ses façades. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Les épreuves viendront. Mais triompher, ça veut dire marcher sur les épreuves. Que les épreuves ne te fassent pas reculer. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire un bon amen? Oh, triompher du monde. Et il dit, la victoire qui triomphe du monde, ça c'est un vrai enseignement. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Dites, la foi va m'aider et m'aide à triompher de ce monde avec tous ses embêtements. Dans le nom de Jésus, je suis né dans la famille de Dieu. Et comme je suis né dans la famille de Dieu, que les problèmes viennent comme des vagues, je veux triompher par la grâce. Dites à la personne à côté de toi, pourquoi tu ne parles pas de triomphe, toi? En tout cas, on continue. Dites, on continue. Dites encore, on peut continuer. Alléluia. Il faut que je livre toute la marchandise. On a encore quelques secondes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Les chrétiens remportent la victoire, tandis que celui qui a peur dit toujours, ce travail, cette circonstance, ou bien cet obstacle est trop grand pour moi. Je n'y arriverai pas. Mais celui qui est plein d'hardiesse proclame, si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons vu l'exemple de David. David qui devant le Goliath, tous ses frères qui étaient costauds, des grands guerriers, ils ont dit Goliath est trop costaud, il va nous écraser. Mais David a dit, il est trop costaud que quand je vais frapper, je ne le manquerai pas. Il va se retrouver à terre. Et c'est ça qui est arrivé à Goliath. Frère, peu importe l'obstacle qui est en face de toi, parle à l'obstacle. Parle à ton Goliath. Chacun de nous a un Goliath. Oh, mais moi, j'ai mes Goliaths. Il y a des Goliaths qui viennent toujours te lancer des défis. Vous savez ce que Goliath faisait? Il se réveillait très tôt le matin. Il venait, il était costaud avec ses biceps. Il faisait trembler ici. Vous savez, les gens qui ont... Quand vous regardez à la télé, qui regarde parfois les catchs? Hein? Les catchs là des Américains. Il fait trembler ça. Et puis il parle à son ennemi dans quelques minutes. Toi, je vais te doubler ici. Et Goliath, c'est ça qu'il fait. Et Satan, c'est ça qu'il fait. Très tôt le matin, il commence à t'apparler dans tes pensées. Dans tes pensées. Avant même que tu te réveilles, avant même que tu quittes ta couverture, il commence. Tu es un vaurien, toi. Tous les autres ont réussi. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tout le monde sont mariés. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez, la malédiction de votre famille est vraie. Hein? Tous les démocrates. Et puis, Il se réveille, les yeux déjà rouges, il commence à pleurer.
Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais appeler mon papa. Je vais appeler ma maman. Qu'est-ce qui arrive? Cette famille-là, c'est quoi ça? Pourquoi je suis né dans cette famille?
Arrêtez! La Bible dit malheur à celui qui dit pourquoi il est né dans cette famille. Tu ne peux pas reprocher ton père de te donner naissance. Dieu l'a utilisé, peu importe. Et ce que tu deviendras ne dépend pas de ce, comment tu es né. Ce qui va importer, c'est ta foi en Christ. Arrêtons d'être des niégeurs qui niaisent en niaisage, je ne sais pas quoi là. Oh, moi, ma vie ne marche pas. Mais entendre, mais ceci, mais ceci. Alors là, il y a un Goliath qui vient. Il fait trembler ses muscles. Et puis tu regardes tout ça. Il va me démolir. Dis-lui, Tébiceps, là, Satan ne me dit rien. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi est sans effet. Mais quand tu dis ça, il faut être sûr que tu marches dans la crainte de Dieu. Ah, c'est là. Parce que beaucoup de personnes sont des spécialistes à lier les diables. C'est sans effet. Il regarde sans effet. Tu sors avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Il est sans effet. Tu sors avec un homme qui n'est pas ta... Sans effet, c'est avec effet. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit une malédiction sans cause. La malédiction doit être sans cause. Mais quand toi-même, tu sais comment tu vis. Ici, à l'église, tu as une autre vie. Mais quand tu sors dehors, la vie que tu mènes, toi-même, tu sais. Dans les fraudes, tu es là-dedans. Dans les critiques, tu es là-dedans. Dans l'impureté, tu es là-dedans. Dans l'impudicité, tu es là-dedans. Dans les querelles, tu es là-dedans. Dans la jalousie, la haine, tu es là-dedans. Maintenant, comment tu peux dire à Satan sans effet? Ça a des effets. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Comme le disait un pasteur, j'ai mal parlé. Quelqu'un peut dire amen. Pour dire à Satan, c'est sans effet. Ça veut dire qu'il faut que ça soit réellement sans effet. Mais avant de dire sans effet. Parce que sinon, quand le Goliath spirituel commence à faire trembler ses biceps, il te dit, je te connais. Il y a des conséquences parce que tu me sers de temps en temps. Frères et sœurs, mais David, quand il a regardé sa vie, il a dit, il n'y avait pas de problème. Fais trembler tes muscles, ça ne me fait pas peur. Je vais t'affronter dans quelques secondes, tu te retrouveras à terre. Écoutez, un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un qui sait garder d'abord sa relation avec le Seigneur. Et même quand le diable fait trembler ses muscles, tu lui dis, calme-toi doucement, parce que c'est lui qui est à moi, t'as vaincu. Il y a de cela 2000 ans en Israël, au lieu qu'on appelle Golgotha, Jésus t'a vaincu. Alors tu ne me fais pas peur. Et puis tu commences à siffler. Tu continues. Dites géant de la maladie, de la discrimination, de la pauvreté, de la manque de promotion. Tu ne me fais pas peur. Oh, le diable viendra te dire, non, ta tête là, non, toi, tu ne peux pas vraiment réussir à telle formation. Tu ne peux pas. D'avance, tu es déjà vaincu. Parce que tu le crois. Complexe. Ah, je vais terminer, s'il vous plaît. Donnez-moi encore quelques 10 minutes. Je vais terminer sur quelque chose. Connaître ta valeur. Parce que frère, les gens qui savent récupérer ce que le diable les a volé, pour clôturer mon message, c'est des personnes qui connaissent leur valeur. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, oublie ça. Dites, pasteur, continue. Merci. Lisons Ésaïe. Ésaïe 41, verset 1. Le Seigneur nous dit, je vais t'aider à surmonter les épreuves par lesquelles tu passes. Si tu cherches ma direction. Ésaïe 41, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il fait silence pour m'écouter. Que le peuple ranime quoi? Leur force. Qu'il fasse quoi? Qu'il avance pour récupérer ce que le diable les a volé. Et qu'il parle. Qu'il fasse quoi? Qu'il parle. Approchons pour plaider ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, il dit, peuple de Dieu, avancez, frère. Le Seigneur veut que tu avances. Dites à la personne à côté de toi, moi, Dieu veut que j'avance. C'est pourquoi je vais choisir ceux qui peuvent m'aider à avancer. Tel que je te vois. Tu es trop négatif, hein? Ne sois plus négatif, toi. Moi, je vais m'entourer à des personnes qui m'aident à avancer. Avancer, c'est question de choix. Quand tu t'entoures avec des personnes qui ne veulent pas avancer, tu n'avanceras jamais. Le marié, dit à ta femme, on doit avancer. Dit à ton mari, on doit avancer. Nous sommes condamnés à avancer.
Et frère, le meilleur est pour vous. Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Premièrement, pour clôturer à notre dernier point, ce que nous sommes appelés à savoir, après avoir compris c'est la récupération, nous devons savoir bien que ceux qui réussissent ont une valeur personnelle. Prends conscience que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a donné cette valeur. Et aie aussi confiance en ta personne, dans la personne que tu es en Christ. Vous savez, un jour, j'avais donné un exemple sur une pièce de monnaie. Je l'ai toujours donné, cet exemple. Je le redonnerai toujours. Quelqu'un qui prend une pièce de monnaie, il arrive sur la métropolitaine, il jette ses pièces de 2 dollars. Et vous savez, la métropolitaine, tous les grands camions passent, au fur et à mesure, les remorques passent, selon le poids qu'ils portent. Cette effigie-là de 2 dollars commence à s'abîmer. Elle perd toute sa beauté. Elle s'aplatit. Mais si tu ramasses cela, tu l'amènes à la banque, elle a la même valeur. Et j'étais en train de dire la fois passée que peu importe les circonstances que vous pouvez rencontrer dans la vie, Dieu a de la valeur pour toi. Tu as de la valeur. Peu importe les circonstances que tu as vécues. Pasteur, j'étais abandonné par mon mari. Pasteur, j'étais délaissé par ma femme. Pasteur, vous savez, ici au Québec, il y a même des hommes battus. Ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de maisons de hommes battus. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas que des femmes qui sont battues. Il y a aussi des hommes battus. Ayez pitié de nous, les hommes aussi. Ma mari, ton bureau est à côté d'un autre bureau des hommes battus. Oui, c'est la vérité à Laval. J'ai vu cela. Des hommes battus. Je dis, le Canada nous apprend des choses. Association des hommes battus. Bon, nous déclassons tout ça. Et les femmes battues, et les hommes battus, nous ne sommes pas battus. Que ce soit en Christ, en action. En Christ, et les hommes et les femmes ne sont pas battus. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur dynamise. Frères et sœurs, peu importe les situations parfois qu'on a rencontrées, tu ne peux pas baisser tes mains par rapport à ce que tu as vécu. Surmonte sur ça. Sois au-dessus. Dites, c'est un événement qui a marqué ma vie, mais ça ne m'arrête pas d'avancer. Dites avec moi, amen. Ça, c'est amen dans une autre langue. En langue, alléluia, prends conscience, alléluia. Reconnais ta valeur, alléluia. Il nous arrive, au cours de notre vie, d'être malmenés, piétinés par des décisions ou que nous avons pris des décisions compliquées, des circonstances compliquées que nous avons rencontrées dans la vie. Mais tu peux penser à devenir quelqu'un d'autre. N'accepte pas que tu te traites comme un vaurien, insignifiant à tes yeux. Vous savez, la première personne qui va s'humilier, c'est toi-même. La première personne qui va te démolir, c'est toi-même. Quand tu commences à penser que tu es insignifiant, les autres ne feront qu'ajouter. Accepte ta valeur. Dites, j'ai de la valeur. Ne te considère pas insignifiant. Beaucoup de personnes souffrent de complexes d'infériorité. Non, pasteur, moi que je dis, pasteur, moi. Christ en toi, tu n'es pas insignifiant. Tu as de la valeur. Et la première personne qui doit se donner de la valeur, c'est toi-même. Dites, continue, pasteur, avant de terminer. Alléluia. Non seulement tu dois reconnaître ta valeur, la deuxième chose, tu dois accepter toi. Tu reconnais ta valeur et deuxièmement, tu dois t'accepter. Même si tu n'es pas doté de la beauté qu'il fallait, que tu rêvais. Vous savez, beaucoup de personnes, la vie semble être dure tout simplement parce que la vie qui est devant lui, quand il se regarde devant le miroir, il dit, moi je n'ai pas la beauté que je voulais. Et tout commence à être sombre. Les gens qui veulent poursuivre l'ennemi, il y a des choses qu'ils doivent mettre en place. Dieu dit à David, David, poursuis ton ennemi parce que tu as de la valeur. Les gens qui veulent récupérer ce que le diable les a volé, ils doivent d'abord, premièrement, reconnaître la valeur. Allô? accepter ta valeur. Parce que le diable te dira, mais regarde, quand tu te regardes sur le miroir, tu te vois un peu, tu n'es pas comme Marguerite, tu n'es pas comme un tel. Dis-lui Satan, écoute-moi bien, je n'ai pas besoin d'être comme lui. Vous savez, il y a d'autres personnes qui nous dirigent, il y a d'autres personnes qui nous commandent, il y a d'autres personnes parfois qui sont des leaders de ce monde. Parfois, toi, tu es plus élégant. Ce n'est pas l'affaire de beauté. Beaucoup de personnes, ils mettent la vie en moule. Tout simplement, ils se regardent devant le miroir. Ils voient qu'ils ne voulaient pas que son nez soit comme ça. Alors, ils voulaient que son nez soit... Quel est le rapport qu'il y a entre ton nez? Dites, Dieu m'a créé comme ça. Accepte ta valeur. Il y a d'autres qui aimeraient bien. Ils pensent que pour avoir de la valeur, il fallait d'abord qu'ils terminent l'université avant. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le finir. Si les autres l'ont fini, béni soit le nom du Seigneur. Si toi tu es arrivé au cégep ou bien à l'école secondaire, louez le Seigneur, ça n'empêche pas que tu réalises ta destinée. Oh non, moi je n'avancerai pas parce que je n'ai pas tel diplôme. Mais parfois, il y a d'autres personnes, respecte ta valeur parce que Dieu t'a donné parfois la facilité de tenir le ballon. Parfois, toi, ta destinée, c'est de courir comme on le voit là. Ces gens-là, ils ne savent pas l'algèbre, hein, mais ils peuvent courir tous ces mille-là. Mon Dieu, mais le chèque qu'il va avoir n'a pas un signe de diplôme. Hein. Frères et sœurs, apprenons à orienter même nos enfants dans les domaines qu'ils veulent. Ils doivent étudier, mais il faut toujours examiner. Qu'est-ce qui l'attire? Vous savez, aujourd'hui, chez nous, en Afrique, quand tu jouais le piano, tu deviens un voyou. La musique était pour des voyous, parce que tout ce qu'on voit, c'est des voyous qui jouent. Mais aujourd'hui, on voit que quelqu'un peut gagner sa vie. Oui. Frère, quelqu'un qui veut récupérer tout ce que le diable l'a volé, il doit être éveillé. Dites éveillé. Éveillé! Ne pleurniche pas! Ne pleurniche pas! Parce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme ceci, tes yeux ne sont pas comme ça, tu n'es pas long de taille comme ça. Arrêtez ce complexe, parce que le diable va l'utiliser. Va te dire, oh, il y a d'autres l'air complexes. Oh non, moi je viens d'Afrique, ou bien moi je viens des pays du tiers-monde. Tu sais combien de personnes qui sont venues du pays du tiers-monde et qui dirigent des pays et qui sont devenus des boss? Dites avec moi, peu importe où je viens. Dites avec moi, peu importe d'où je viens, Dieu va m'amener à la destinée. Oh, si tu ne crois pas, tu n'iras nulle part. Hein? Ah non, tu sais, toi tu viens d'Afrique, toi tu viens de Latino, toi tu viens... Et maintenant, on vous catégorise. Dites avec Dieu, on ne peut pas me catégoriser. Si vous me mettez dans un ordinateur, je vais le casser spirituellement. Et je sortirai parce que ce qui doit arriver doit arriver. Dites, j'avance. Bon, on arrête ici. Quelqu'un peut dire un bon amen. Bon, cette fois-ci, je vais terminer. Quelqu'un qui veut récupérer ce que le diable lui a volé, premièrement, c'est quelqu'un qui doit apprendre à s'améliorer. Dites s'améliorer. Dites s'améliorer. Dites, je vais m'améliorer. Les gens parfois aiment tourner en rond. Les changements, ils n'aiment pas. Frère, il faut accepter le changement dans ta vie. Il y a des moments, Dieu te dit, il y a un changement qui doit... Vous savez, le changement commence d'abord spirituellement. On se répand. Là, c'est le départ du changement. Dans la vie, il faut accepter les changements. Il y a des moments où il faut des choses doivent changer dans ta vie. Tu ne peux pas progresser sans vouloir t'améliorer. Améliore-toi. Va d'amélioration en amélioration. Je connais un avocat ici. Quand on est arrivé à Montréal, il faisait des études pour être un avocat. À un certain moment, il a dit, pasteur, je viens de terminer, mais pour le moment, il y a des blocages là. J'aimerais bien, j'ai dans mon cœur, de faire la mécanique pendant 12 ans et pendant 12 mois. Tu te rends compte, il avait un diplôme d'avocat, il est foncé. Il a étudié le mécanicien pendant 12 mois. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, il fait 35-40 $ l'heure. Un jour, quand on se rencontre, il dit, pasteur, je suis toujours flexible, moi. L'argent n'a pas de couleur. $40 et il a maintenant le moyen. Il pouvait commencer à se plaindre. La frère, c'est cher. Dans la vie, il faut être flexible. Quand tu vois que tu peux changer, jouer un peu aux dames, vous savez, quand pour les joueurs de dames, ils savent. Ils peuvent te donner un bouche, deux pions, trois pions. Tu ne sais pas que tu vas perdre sept pions. Dites avec moi, Satan pensait m'avoir. Mais il ne m'aura pas. Sois flexible. Pleure pas sur ton sort. Parfois le Seigneur te dit, oriente-toi. Apprenons à nous améliorer. Frère, même dans tout ce que nous faisons, nous devons aller d'amélioration en amélioration. Fermons les yeux. Cette fois-ci, je m'arrête là. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Dites avec moi, Seigneur Jésus.
Nous vous remercions d'avoir écouté ces messages. Si ces messages vous ont inspiré, nous vous invitons à consulter notre site web au www.christenaction.com. Que le Seigneur vous bénisse.